Ô Dieu, nous voulons te remercier et te louer de nous réunir encore une fois ce matin dans cette nature que tu as faite et où nous avons notre place. Que nous puissions éprouver d'une façon très sensible ta présence et que tu nous recrées dans ton amour en Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, je crois que dans cette journée du 12 août, où nous continuons notre étude sur l'Épître aux Romains, par le chapitre 13, qui nous parle de nos responsabilités vis-à-vis des autorités civiles, je crois que nous sommes vraiment heureux de nous retrouver dans ce lieu où Dieu nous a bénis dimanche dernier. Est-ce que vous êtes tous bien installés? Personne n'a froid? Nous avons donc commencé hier d'entrer dans la seconde partie de l'Épître aux Romains qui, comme nous vous le rappelions, est la partie pratique de cet Épître. C'est la manière de Paul de nous donner tout d'abord une partie doctrinale, puis ensuite un enseignement moral qui découle de la doctrine qu'il nous a enseignée. Et vous aurez remarqué, dès la lecture du chapitre 12, que le style de l'apôtre se faisait beaucoup plus abandonné, si j'ose dire ainsi. On dirait que Paul, ayant mené à terme l'exposition doctrinale si difficile qu'il avait à cœur, il se livre désormais à un entretien moins soutenu et que j'appellerais presque un entretien à bâton rompu avec les fidèles de Rome. Au point de départ de l'exhortation morale, une double recommandation résume ce que doit être la vie chrétienne. La vie d'un chrétien doit être un sacrifice vivant, offert à Dieu, et une transformation intérieure par le renouvellement de l'esprit qui apporte à l'âme la lumière dans toute sa conduite. C'est le début donc de cette partie morale de l'Épître. Et c'est ici que je voudrais revenir un instant au message donné hier soir et qui, sans que je m'en rende compte, préparait celui de ce matin. Je sais qu'hier soir, je vous ai fait rire, mais j'espère quand même que vous avez su réfléchir. Le bœuf, disions-nous, vit une quinzaine d'années. Et dès la troisième année, il peut être mis au travail du labour. Et nous faisions remarquer qu'après 10 ans, le bœuf ne servait plus à grand-chose. De sorte que il fallait qu'il arrive à sa mort pour vraiment donner tout, sa chair, qui est un aliment de choix, sa peau, ses poils, ses cornes et ses os. Tout sert quand le bœuf meurt. On emploie tout du bœuf. Et nous disions, en revanche, que nous, une fois morts, nous ne donnions plus rien, sinon notre chair au ver. Et peut-être que quelques-uns étaient tristes de constater l'avantage du bœuf. Eh bien, ce matin, nous apprenons que comme le bœuf ne se donnait totalement qu'une fois mort, le chrétien ne peut se donner entièrement qu'à la condition de mourir dans le Christ. Et c'est cela qui est fantastique. Mais cette mort qui consacre tout notre corps au service du Seigneur, nous devons la vivre dans notre existence. Nous mourons en vie. Et c'est quand on accepte de mourir en vie que toutes les parties de notre corps, tous nos membres, prennent une valeur et deviennent utiles au Seigneur. Donc, n'attendons pas notre mort physique pour nous donner au Seigneur. Mais pendant que nous sommes en vie, et pendant que nous avons encore quelques années peut-être devant nous, acceptons réellement cette doctrine qu'on a essayé de vous inculquer, la mort, dans la mort de Christ. C'est que dans cette mort, que Dieu pourra employer vos membres comme instrument de justice dans le Christ ressuscité. Et il emploiera notre corps et ses membres, et je dirais jusqu'à la moelle de nos os. Tout servira pour le Seigneur. Parce que, vous l'avez constaté, ici nous rejoignons, dans le chapitre 12, Romains 6, où il était dit que nous devions nous considérer comme morts, et qu'étant morts au péché, nous devions livrer maintenant nos membres comme étant faits vivants, et comme étant des instruments de justice. De sorte que Romains 6, préparer Romains 12. Et je dirais que Romains 7 prépare Romains 13 et que Romains 8 prépare Romains 15. La pratique découle de la doctrine. En Romains 12, Paul place le croyant sur le terrain de la miséricorde, des compassions de Dieu, point que l'apôtre a pleinement développé en réponse aux compassions de Dieu, et bien maintenant, offrons nos corps. Mais ça, c'est possible que si vous avez accepté de mourir. Si vous pensez que vous pouvez offrir votre chair, ça ne marchera pas. Il faut faire une distinction entre la chair et le corps. Le Seigneur ne peut rien faire avec votre chair. Ce qui est né de la chair est chair, et la chair est inimitié contre Dieu. Mais, si vous acceptez le verdict de Dieu sur la chair, ce principe mauvais qui est en nous et qui nous coule toujours, quand on a accepté cette mort à la chair, alors ce corps que la chair employait pour se satisfaire, ce corps devient l'instrument de Dieu. Et alors, comme le bœuf ou la brebis donnent tout dans leur mort, nous aussi, nous devons comprendre ce matin que c'est en acceptant notre mort avec Christ que Dieu a tout. C'est quelque chose de merveilleux. Et pour moi, cette nuit, quand cela m'a été montré sur le petit chemin qui descend là, j'ai été inondé de cette grâce du Seigneur. En comprenant que c'est réellement, quand on accepte cette mort, que le Seigneur a tout. Peu importe après que mon corps, ma dépouille, au moment de la mort physique, retourne à la poussière. Ce n'est plus cela. Hein. Mais quand j'accepte de mourir en vie, si j'ose dire ainsi, hein, oui, vous me comprenez, dans ce que j'entends, je prends par la foi que c'est vrai que je suis mort. Je meurs en vie. Alors, le Seigneur me demande de m'offrir en sacrifice vivant. Je n'offre pas ma chair en sacrifice vivant. J'offre mon corps. Mon corps en sacrifice vivant. Alors, le Saint-Esprit agrée ce sacrifice. Vous êtes un sacrifice vivant. Je demande au Seigneur qu'il vous donne de pouvoir réaliser cette merveille. Et quelqu'un se demandait, mais enfin, comment est-ce que je peux être sûr que je suis mort? Et Dieu vous le dit. Vous voulez qu'il vous montre le certificat de décès? Hein? Il y a un médecin ici qui doit signer des certificats de décès. Et c'est seulement quand le mort voit son certificat de décès qu'il sait qu'il est mort. Il attend que cela pour consentir à être enterré. C'est cela vos théories? Non. Vous êtes mort. On ne sait plus rien. Mais Dieu vous le dit, vous êtes mort. Je crois. Je suis mort. Et ce qui vous montre bien que c'est vrai, c'est que quand on est mort au péché, eh bien, c'est plus possible de pécher avec joie. Avant, on avait les délices du péché. Eh bien, maintenant, quand on pêche, je vous promets que ce n'est pas des délices. Le chrétien qui se laisse aller au péché, il est malheureux. Vous ne pouvez plus pécher sans souffrir. On peut encore, oui, se laisser surprendre par quelques fautes, mais on a une tristesse dans le cœur. Et c'est quelque chose qui prouve bien que l'Esprit de Dieu est en nous. Sinon, il n'y aurait pas de souffrance. Eh bien, que le Seigneur nous aide à prendre Dieu au mot et à croire ce qu'il nous dit sans que nous ayons besoin de sentir quelque chose. On ne sent pas qu'on est mort. On est mort. Et c'est tout. Un mort, il ne sent plus rien. Alors vous n'avez pas à attendre de sentir que vous êtes mort. Ça ne serait qu'une preuve que la chair vit bien en vous. Et c'est en partant de ce chapitre 12 où le principe de la grâce qui sauve ayant été bien établi comme fondement de salut, c'est en partant de ce chapitre 12 que vous trouvez vraiment ce qu'est la moralité chrétienne, qui consiste à présenter nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et à offrir à Dieu un culte raisonnable ou intelligent, non pas un service d'activité extérieure, ni un service qui consisterait en des cérémonies que le corps pourrait accomplir. Ce n'est pas un culte extérieur de forme, de rite, c'est un culte du cœur, un culte intérieur. Voilà ce qui concerne l'homme personnellement. Nous sommes entièrement renouvelés. Et je pense que si vous avez compris cela, vous n'aurez plus tellement de questions à vous poser concernant la première épître à Timothée, chapitre 2. si vous avez offert votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, vous trouverez vous-même dans votre cœur une joie à accomplir la volonté de Dieu. Dans nos rapports extérieurs, le croyant n'a pas à se conformer au monde. Et cette non-conformité ne doit pas être non plus extérieure ou machinale, mais elle doit être le résultat du renouvellement de l'entendement, en sorte que l'on recherche à discerner quotidiennement, heure après heure, la volonté de Dieu, et on la trouve bonne, agréable et parfaite. Je trouve qu'il est bon de faire ceci. Le monde ne fait pas, le monde se moque peut-être, mais pour moi, c'est bon, je trouve que c'est bon. Et même, je trouve que c'est agréable de faire ce que Dieu désire. On a maintenant un peu de lumière sur ce que Dieu pense, et on désire aller au-devant de ses souhaits. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas, dit saint Paul ? Alors on est en harmonie avec la nature, on apprend des animaux, mais on apprend aussi des arbres, on apprend de la végétation, nous sommes enseignés, et puis quand on apprend ces leçons, on trouve ensuite que c'est agréable de faire les choses qui plaisent au Seigneur. Parce que Jésus, lui, son secret, c'était cela. Il disait, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père qui m'a envoyé est avec moi, et que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. Vous trouverez votre satisfaction en accomplissant les choses qui plaisent à Dieu. Vous ne vous demanderez pas, mais est-ce que ça plaît au monde, cela ? Est-ce que ça plaît à mon mari, à ma femme seulement ? Mais est-ce que ça plaît au Seigneur ? Ce que je suis en train d'être, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça plaît au Seigneur? Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller demander à Pierre, Jacques et Jean. Vous avez une conscience, le Saint-Esprit vous dirigera. Vous n'imposerez pas aux autres ce que le Seigneur vous montre de faire. Mais il vous est agréable de faire la volonté de Dieu. Quand on vit dans le Seigneur, quand on vit avec le Seigneur, tout ce que l'on met en avant aujourd'hui pour discuter à l'infini, si on doit faire ceci, si on doit faire cela, si c'est permis de faire ceci, si c'est permis de faire cela, mais toutes choses sont permises. Mais la question c'est de savoir, est-ce que c'est utile? Toutes choses sont permises, mais toutes ne sont pas utiles. Alors, ne vous remettez plus sous la loi. Restez dans la communion du Seigneur. Ici, dans cette seconde partie, il n'est pas question, comme dans les Éphésiens, d'être dans les lieux célestes, d'être imitateur de Dieu comme de bien-aimés enfants. Il est question d'hommes et de femmes qui se trouvent sur la terre, qui sont affranchis de la puissance du péché, et qui, par la grâce, se livrent eux-mêmes à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, je ne discute plus avec Dieu. J'entre dans ses pensées. Je vais au-devant de ses désirs. Je n'ai plus besoin de regarder ce que fait Pierre, Jacques ou Jean pour essayer de les imiter. J'ai des convictions personnelles. Je ne les impose pas aux autres. Je respecte la liberté des autres. Mais dans ma manière de vivre, je suis motivé. Ce n'est pas la mode qui me conduit. Ce n'est pas les idées du jour qui m'influence, c'est mon contact actuel avec mon Père des cieux. C'est une intimité qu'on a avec le Seigneur. Alors cultivez cette intimité. Recherchez la pensée du Seigneur, ayez réellement affaire avec lui, et vous saurez ce que vous devez faire dans votre vie personnelle, dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale et dans votre vie ecclésiale. Vous ne serez plus sous des règles rigides, mais ce que vous ferez sera l'expression de votre culte. Un culte raisonnable, un service intelligent. Pour quelle raison ? Parce que vous avez été complètement renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et s'il n'y a pas ce renouvellement, alors on discute à l'infini. Mais quand il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a des choses qu'on ne discute plus. On a jugé cela une fois pour toutes, et maintenant on va de l'avant. Et on comprend que la vie chrétienne, c'est une vie de dévouement et d'obéissance. C'est ça le caractère de la vie chrétienne, dévouement et obéissance. La vie du chrétien est une vie de soumission à la volonté d'autrui, savoir la volonté de Dieu. De sorte que cette vie est une vie d'humilité et de dépendance, où vous trouvez le dévouement du cœur dans le sacrifice de soi-même. Car voyez-vous, le danger qui découle de la puissance qui agit dans notre vie, c'est que la chair s'y mêle et se prévale de cette puissance. Et il y a une puissance qui vous est donnée. Mais il faut faire attention que la chair, de nouveau, qui n'a pas cette puissance, dise « c'est de moi que ça vient ». Et c'est ça le danger. Si, grâce à la puissance qui est en vous, vous avez une vie qui est à la gloire de Dieu, la chair qui a été mise de côté essayera, puisqu'elle est toujours là, de s'attribuer ce changement. Alors vous devez veiller. Et c'est pourquoi, si la puissance du Seigneur est en vous, vous n'allez pas dépasser votre mesure. C'est la fin de ce chapitre. Chacun a son ministère, chacun a sa tâche, chacun a son rôle. Et vous ne devez pas penser que moi j'ai plus de puissance que vous. Il nous donne, aux uns et aux autres, la force qui nous est nécessaire selon les responsabilités qui nous ont été confiées. De sorte que nous ne devons pas être écrasés. Alors restons dans les limites que le Seigneur nous a confiées. Il ne nous a pas demandé de tout faire. Il ne m'a pas demandé d'accomplir le ministère d'un autre. Il me demande d'accomplir fidèlement mon ministère. C'est ce que Paul dit à Timothée. Alors, ceci étant bien compris, nous pouvons maintenant passer au chapitre 13. Nous voyons nos rapports avec les autorités civiles et l'obéissance qui est due aux autorités constituées. Verset 1 à 7. Puis, du verset 8 à 10, nous voyons que toute la loi est accomplie par l'amour. Et enfin, dans les derniers passages, la nuit étant passée, nous avons une exhortation à veiller. Nous le lisons. Que toute personne, c'est des personnes donc qui sont mortes en Christ et qui vivent de cette vie nouvelle. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et vous apprenez là qu'il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, c'est un principe que nous reconnaissons. Dieu a confié à l'homme une responsabilité depuis le temps de Noé. Et nous nous soumettons à cet ordre parce que nous constatons que là où il n'y a pas d'autorité, qu'est-ce qui se produit dans le monde? Le chaos, c'est l'anarchie. Alors il vaut mieux une autorité que pas d'autorité du tout. C'est pourquoi même en Russie, les chrétiens se soumettent au gouvernement communiste. Parce qu'il est préférable qu'il y ait ce gouvernement que pas de gouvernement du tout. Et sous ce gouvernement-là, ils auront à souffrir. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, les aidera et leur fera voir son amour au travers de bien des épreuves. Heureux êtes-vous si vous avez un gouvernement qui a encore la crainte de Dieu. Mais croyez-le, si nous ne savons pas être reconnaissants du gouvernement que Dieu nous a donné, tôt ou tard, nous aurons, comme le disait un de mes amis en France, le gouvernement qu'on mérite. Tôt ou tard. Mais, quel que soit ce gouvernement, nous devons être soumis aux autorités. Nous n'avons pas à prendre les armes pour le renverser. C'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens, qui ont une certaine idéologie, qui ont une certaine vision des affaires du monde, et qui pensent qu'il faut maintenir cela à tout prix. Dieu règne au-dessus des rois, au-dessus de tout autorité. Mais c'est lui qui a établi ce principe, de sorte qu'on ne discute pas là-dessus. C'est pourquoi, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous pouvez méditer là-dessus. Ça, c'est le principe divin. Vous pouvez vous opposer à l'autorité. Mais alors ne vous plaignez pas si on vous arrête et qu'on vous jette en prison. Si vous aviez été soumis, vous n'auriez pas eu ces ennuis. Vous voulez changer le monde vous-même? Vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez prier. Et ceux qui ont compris cela ont vu la main du Seigneur dans leur existence. Ceux qui ont résisté, eh bien, ont connu ce que Jésus avait dit, celui qui frappera par l'épée périra par l'épée. Et ce n'est pas nécessairement des héros, ceux qui périssent par l'épée, parce qu'ils ont voulu se soulever contre l'autorité. Et quand on pense à Dietrich Bonhoeffer, qui était un des théologiens allemands du temps de Hitler, à un moment donné, ce chrétien luthérien a cru qu'il pouvait se débarrasser, aider à se débarrasser d'Hitler. Et il s'est mêlé au complot des généraux contre Hitler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelques jours ou quelques heures avant qu'il soit libéré par les Américains, il a été pendu. Et je pense que Dietrich a reconnu son erreur. On l'a vu dans une dernière vision, à genoux le matin, sa Bible ouverte devant sa chaise, avant qu'il ne soit pendu. Et quelques heures après, il aurait été libéré. On peut faire des erreurs. Mais le Seigneur nous a avertis. Tu frappes par l'épée, attends-toi de périr par l'épée. Si c'est cela que vous voulez, vous pouvez le faire. Jésus, quelle a été son attitude devant Pilate? Une attitude de révolte? Non. Pilate lui dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Tu n'aurais aucune autorité sur moi s'il n'était tenu d'en haut. Alors verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. C'est la loi qui reste toujours bonne. Le commandement divin, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point adultère, c'est un commandement qui est bon. Eh bien, soumets-toi à l'autorité et tu auras son approbation. Mais maintenant, si je veux transgresser ces lois, je ne dois pas m'étonner que j'ai des désagréments. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Dieu a donné la loi quand même pour être un frein, pour empêcher la marée du mal d'arriver à son apogée. Alors bénissons Dieu pour la loi. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, ce magistrat, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. De sorte que vous voyez que la Bible admet la peine de mort. Or, je sais que beaucoup de chrétiens de gauche sont contre la peine de mort, mais en même temps, absolument pour l'avortement. C'est une contradiction complète. On est pour l'avortement, mais on est contre la peine de mort. Et tout cela, soi-disant, au nom du Seigneur. Quand on se place devant l'Écriture, eh bien, on reconnaît que Jésus a admis la peine de mort puisqu'il l'a subie lui-même, alors qu'il aurait pu demander 12 légions d'anges pour être délivré. Il ne l'a pas fait. Il s'est soumis. Je ne suis pas au-dessus de mon maître. Et ce n'est pas moi qui vais essayer de changer cela. Ce que je dois comprendre, c'est que je dois être renouvelé dans mon entendement pour agir selon Dieu. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, vous l'avez compris, on ne doit pas simplement soumettre pour ne pas être puni, mais par motif de conscience, parce qu'on admet que c'est juste quand même. Et on ne peut pas défendre une cause qui est mauvaise. Mais maintenant, vous me direz, mais les magistrats, ils ne sont pas toujours loyaux. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous ayez une relation avec le Seigneur. Le juge peut être un juge unique. Ça n'a pas empêché la veuve d'être exaucée. Vous pouvez avoir affaire avec des juges uniques. Remettez votre cas au grand juge. Au Seigneur. Persévérez. Faites confiance au Seigneur. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. Et si même vous devez souffrir injustement, souvenez-vous du seul juste qui a été condamné alors que la conscience de son juge criait, il n'a commis aucun crime. C'est aussi pour cela maintenant. Peut-être que vous étiez d'accord jusqu'à maintenant. Maintenant, un peu moins. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Payez des magistrats. Eh oui. Le Seigneur veut aussi les entretenir. Car les magistrats sont des ministres de Dieu. Il n'y a pas que ceux qui prêchent l'Évangile qui sont des ministres de Dieu. Vous avez déjà pensé que le magistrat était aussi un ministre de Dieu et qu'il avait aussi besoin de son pain quotidien? Et qu'il faut forcément des impôts pour entretenir tout cela, toute la magistrature, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Ils doivent lire ça eux-mêmes pour qu'ils sachent comment ils doivent travailler. Rendez à tous ce qui leur est dû. Alors l'impôt, à qui vous devez l'impôt? Les taxes, à qui vous devez les taxes, dans la traduction moderne? La crainte, à qui vous devez la crainte? L'honneur, à qui vous devez l'honneur? S'il y a des gens dans la coutume du pays qu'on doit appeler son honneur, c'est pas parce que vous êtes chrétien, vous allez dire, moi je dirai pas son honneur, puisqu'il réclame cet honneur. Rendez l'honneur à qui réclame cet honneur. Pourquoi pas? Dans le monde, s'il y en a qui ont le titre de Monseigneur, pourquoi ne pas dire Monseigneur? Je ne dis pas mon séparé, Seigneur, hein? Mais si c'est son titre, qu'est-ce que ça peut me faire? À qui l'honneur, l'honneur? Et s'il y a la reine, je crache à ses pieds quand elle vient? Pour l'instant, c'est encore la reine du Canada. Alors, à qui l'honneur? L'honneur? C'est pas un témoignage chrétien que de vouloir la défendre. Cette pauvre Elisabeth, elle est à la cuisine. Elle ne sait pas qu'elle a évité un attentat. Mais vous voyez, le christianisme met d'autres sentiments dans nos cœurs. C'est tellement différent. Et maintenant, prenons depuis le verset 8. Alors là, vous serez tous d'accord. Plus de dettes au Québec. Quel assainissement! Ne devez rien à personne. Comme ça aiderait. Hein. On n'aurait plus peur du taux d'intérêt. Tellement élevé. Ne devez rien à personne. Mais si j'ai cultivé toute ma vie des dettes, eh bien, je subis maintenant le taux d'intérêt. Et ça, je m'endette encore davantage. Mais pourquoi vouloir s'endetter? C'est parce qu'on a vu trop grand, bien souvent. On a voulu dépasser nos moyens. Ne devez rien à personne. Ça, c'est un conseil. Maintenant, si vous voulez emprunter, empruntez, mais ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre de vos ennuis et de votre taux d'intérêt. C'est pourquoi, dans le chapitre 12, qu'est-ce qu'il était dit? Si vous êtes chrétien, associez-vous aux choses élevées. C'est ça que vous avez lu? Associez-vous aux choses humbles. Mais vous voulez paraître. Et jusque dans les enterrements, souvent ça se fait. On veut paraître parce que telle autre personne a fait un magnifique enterrement, et bien nous voulons aussi le faire, quitte à emprunter pour mettre encore cela dans la terre, si vous le voulez. Ne devez rien à personne. Voyez comme c'est sage l'écriture. Sinon de vous aimer les uns les autres. Ça, on a toujours des dettes. Une dette d'amour. Ça, je n'arriverai jamais à la payer. Je suis un endetté jusqu'au cou. Mais ce sont les seules dettes qui ne nous amène pas à la faillite. Ces dettes d'amour, quand nous les payons, amassent pour nous, dans le ciel, un merveilleux trésor. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais remarquez la différence qu'il y a entre ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même » de Paul et le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on trouve dans le Lévitique. Le prochain dans le Lévitique, c'était qui ? Le prochain, juif. Tandis que maintenant, dans le Nouveau Testament, le prochain, c'est aussi le Samaritain. C'est tout homme dans le monde entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous surprend ? Un seul commandement dans la loi, comment est-ce qu'on résumait les commandements de toute la loi ? Par combien de commandements ? Deux. Et comment Jésus lui-même résumait-il la loi ? Lui aussi. Par deux commandements. Alors comment se fait-il que dans les épîtres, à trois reprises, il est dit que maintenant, il n'y a plus qu'un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » ? Parce que maintenant, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, nous aimons de l'amour de Dieu. Maintenant, nous sommes consommés déjà dans son amour. Ce n'est plus un commandement d'aimer Dieu. Nous sommes en Dieu. De sorte qu'il n'y a plus qu'une chose, c'est l'amour du prochain. Que ce soit ici dans les Romains, que ce soit dans Galates ou dans Jacques, le commandement qui résume tout, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet amour alors, qui est l'amour de Dieu, il ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Bien, nous voilà consommés maintenant dans l'amour. Notre vie doit être un grand amour. Et tout doit être fait maintenant pour nous par amour. Dieu est amour, nous sommes dans son amour, et il n'est pas question que l'enfant de l'amour fasse autrement que son père d'amour. Voilà ce qui nous est demandé, voilà ce qui est la vie normale. Et tout cela, ça importe d'autant plus depuis verset 11, que nous savons en quel temps nous sommes. Est-ce que nous le savons? Les animaux savent reconnaître le temps. Nous l'avons vu dans le prophète Jérémie. La grue, la tourterelle, l'hirondelle savent le temps où elles doivent venir. Eh bien, nous devons connaître aussi le temps. Est-ce que nous savons aujourd'hui en quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Si c'était l'heure au temps de Saint Paul, combien plus maintenant? Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que c'est ce salut? C'est la venue du Christ. C'est lui qui est le salut. Et comme Siméon, quand Marie est allée au temple, Siméon a pris son enfant et l'a tenu dans ses mains en disant à Dieu, « Mes yeux ont vu ton salut. » Donc, comme je le dis souvent, le salut, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est la personne de Jésus. Et alors, quand on attend maintenant le salut, c'est la venue de Jésus qui, quand il viendra, transformera notre corps de chair, notre corps de misère, en la conformité de son corps de gloire. Eh bien, nous nous réjouissons de savoir que ce jour de sa venue est plus près de nous que lorsque nous avons cru. depuis notre conversion, nous avons fait des pas vers le retour de Jésus. Alors, réveillons-nous. Ne soyons pas comme les vierges qui s'endorment, mais veillons, soyons fermes, car Jésus vient. Est-ce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps? Depuis quand ont commencé les derniers temps? Par la venue de Jésus. C'est la résurrection de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection qui ont commencé les derniers jours. Dieu a envoyé son Fils, il a dit le dernier. Il n'y aura plus rien qui va se manifester que le retour de Jésus. Le premier événement extraordinaire que nous avons à attendre et qui va saisir et bouleverser le monde, c'est la venue du Seigneur. On a dit depuis longtemps qu'il reviendrait, mais un jour, il sera venu. Alors, préparons-nous, comme les Thessaloniciens, qui s'étaient détournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. La nuit est avancée, le jour approche. C'est l'heure de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les œuvres des ténèbres? C'est les péchés. Tout ce qu'on ne peut pas faire dans la lumière, c'est péché. Et revêtons les armes de la lumière. Nous avons une guerre spirituelle, non pas une guerre contre le sang et la chair, mais une guerre contre les puissances spirituelles. Mais nous avons des armes de lumière. Nos armes ne sont pas des armes ténébreuses, c'est des armes de lumière. Et quelles sont ces armes? Les armes de lumière, où les trouvez-vous? Dans Éphésiens 6. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le casque du salut, les sandales de la paix à nos pieds, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et toute espèce de prière. Voilà nos armes, la prière qui est l'arme puissante. Et alors, il découlera de cela que nous avons à marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous savez que c'est ce verset qui a été le moyen de la conversion d'Augustin à Milan quand il était dans ce grand combat spirituel. Sa mère Monique ayant tant prié pour sa conversion. Et un jour qu'il était dans ce jardin de Milan, il a entendu ces paroles. Prends et lis. Et il a vu un rouleau de l'Épître aux Romains. Et il a ouvert ce rouleau, et ses yeux sont tombés sur ce verset. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Il était jusqu'au cou dans ces choses. Eh bien, cette parole l'a pénétré comme une épée, l'a transpercé, et ça a été sa conversion. Et il est devenu cet homme dont vous avez lu peut-être les confessions ou la cité de Dieu, mais qui a été employé merveilleusement par le Seigneur. Alors nous voyons ce que nous ne devons pas faire. Et maintenant verset 14, ce qui doit nous caractériser. Quel doit être notre vêtement? Le Seigneur Jésus. Revêtez le Seigneur. Alors, il n'est plus question de savoir si on doit mettre ceci ou si on doit mettre ça. C'est beaucoup plus important de revêtir le Seigneur. Revêtez le Seigneur. Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est comme un vêtement de lumière, et pour traverser ce monde, nous devons avoir revêtu le Seigneur. Et alors le monde verra quoi? Est-ce qu'il nous verra? Qu'est-ce qu'il verra? Le Seigneur. Revêtez le Seigneur. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, nous la laissons. Elle peut mourir, elle. Affamez la chair. Comme le disait quelqu'un, affamez le bœuf. Affamez la chair. Ne lui donnez rien. Vous n'êtes pas débiteur à la chair. Ne devez rien à personne. Mais à la chair, on ne lui doit rien. Vous pouvez la laisser mourir. Revêtez le Seigneur. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises sont toujours là. Mais je n'ai plus besoin de m'occuper des désirs de la chair. J'ai besoin de m'occuper de quels désirs? Les désirs du cœur de Dieu. Les désirs du Seigneur. Et si le Seigneur désire ceci ou désire cela, cela m'est agréable. Voyez-vous, mes amis, quand on aime, connaître les désirs de quelqu'un qu'on aime vraiment, ça nous réjouit, parce qu'on se dit, on peut aller au-devant de ses désirs. Bien souvent, on aimerait savoir ce que désire quelqu'un qu'on aime, pour pouvoir lui apporter réellement ce qu'il désire. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'avoir assez d'intimité avec le Seigneur pour savoir ce qu'il désire et qu'il n'ait pas besoin de nous dire « fais ceci, fais cela ». Mais que nous allions au-devant de ses désirs parce que nous connaissons ses pensées, ses habitudes et que nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Est-ce qu'il y a des questions? Sur ces chapitres. Mais parce que là, alors il y a une réserve, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ces gens ne se soulèvent pas avec des armes. Alors c'est ce que Pierre dit, vous nous interdisez alors de parler au nom de Jésus, ça, nous ne pourrons pas le faire. Et le gouvernement sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se soumettre. Alors on les traque, mais ça c'est le risque du chrétien. Oui. Mais ça, le Seigneur nous a averti qu'on aurait des tribulations. Et c'est pourquoi pendant que nous avons des libertés, soyons heureux d'avoir ces libertés. Mais pour moi, les communautés chrétiennes qui sont le plus en danger, ce ne sont pas celles des pays de l'Est. Les communautés chrétiennes qui sont en danger, ce sont celles de nos pays où on a encore toutes les libertés, parce qu'elles, elles vont mourir, tandis que les autres sont puissamment réveillées. On les appelle les églises du silence, je ne sais pas trop pourquoi. Elles ne sont pas du tout silencieuses pour Dieu. Et il voit des miracles s'accomplir au milieu d'eux. Et nous, on ne croit plus au miracle. Parce que, comme nous l'avons dit souvent, on s'est assuré contre le risque d'un miracle. On a des assurances tout risque. Alors, Dieu n'intervient plus. Mais quand on n'a rien, quand on n'a aucune assurance, ben Dieu doit bien intervenir. Parce qu'alors, on n'a plus que lui. Eh bien, il faut qu'on en arrive à n'avoir plus que lui. Alors on sait qu'il est vivant, parce qu'il ne nous laisse pas. Mais quand on a des secours d'ici, des secours de là, eh bien, le Seigneur n'intervient pas. Mais c'est au jour où nous sommes dans la détresse. Quand Élie n'avait plus rien, Dieu lui a envoyé des corbeaux. Mais il ne va pas vous envoyer des corbeaux alors que vos frigidaires sont pleins.